Ça peut pas faire de mal. Tous les samedis sur France Inter, à partir de 18h. Didier Ribon.
Par définition, la honte, c'est ce dont on ne parle pas. Et donc, j'ai voulu parler de ces choses dont on ne parlait pas. Pourquoi j'avais eu honte de mon milieu social? Bon, après tout, j'aurais très bien pu dire, partout où j'allais, oui, quand on me posait la question, oui, mon père était ouvrier, ma mère était femme de ménage. Bon, aujourd'hui, je ne comprends même pas pourquoi j'ai pu avoir honte de ça.
Ça peut pas faire de mal.
On se sent mal à l'aise quand on n'est pas issu des mêmes classes que ceux qu'on se met à fréquenter au terme d'une ascension scolaire. Pourquoi même le milieu intellectuel, le milieu culturel de gauche est un milieu où les origines de classe populaire doivent à ce point être censurées ou alors deviennent une curiosité. Et donc j'ai voulu explorer tout ça.
Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Ça peut pas faire de mal.
Quand je l'appelais le 31 décembre de cette année-là, peu après minuit, pour lui souhaiter une bonne année, ma mère me dit « La clinique vient de me téléphoner. Ton père est mort il y a une heure. » Je ne l'aimais pas. Je ne l'avais jamais aimé. Je savais que ses mois puis ses jours étaient comptés et je n'avais pas cherché à le revoir une dernière fois. À quoi bon d'ailleurs, puisqu'il ne m'aurait pas reconnu. Mais cela faisait une éternité déjà que nous ne nous reconnaissions plus. Le fossé qui s'était creusé entre nous quand j'étais encore adolescent s'était élargi au fil des années et nous étions devenus des étrangers l'un pour l'autre. Du moins le croyais-je. Ou avais-je tant souhaité le croire, puisque je pensais qu'on pouvait vivre sa vie à l'écart de sa famille et s'inventer soi-même en tournant le dos à son passé et à ceux qui l'avaient peuplé. Dans les jours qui suivirent, je me mis à repenser à mon enfance, à mon adolescence, à toutes les raisons qui m'avaient conduit à détester cet homme qui venait de s'éteindre, et dont la disparition et l'émotion inattendue qu'elle suscitait en moi réveillaient dans ma mémoire tant d'images que je croyais avoir oubliées. Mais peut-être avais-je toujours su que je ne les avais pas oubliées, même si je les avais consciemment refoulées. Cela survient dans tout deuil, me dira-t-on, et peut-être cela en constitue-t-il l'une des caractéristiques essentielles et universelles, surtout quand il s'agit des parents. Mais dans ce cas, ce fut une étrange façon de l'éprouver. Un deuil dans lequel la volonté de comprendre celui qui venait de disparaître et de me comprendre moi-même, qui lui survivait, l'emportait sur la tristesse. Cette annonce de la mort du père est le point de départ d'un livre bouleversant signé de la plume du sociologue Didier Ribon. Il s'agit non d'un roman, mais d'un essai au ton très personnel intitulé « Retour à Reims ». Publié il y a tout juste 10 ans, en 2009, aux éditions Fayard, le texte fait actuellement l'objet d'une adaptation au théâtre par le grand metteur en scène allemand Thomas Ostermeyer, avec, sur scène, la présence d'une magnifique comédienne que j'admire, Irène Jacob. La pièce sera présentée jusqu'au 16 février à l'Espace Cardin dans le cadre de la programmation « Hors les murs » du Théâtre de la Ville. Ce soir, parcourons ce livre à mi-chemin entre la confession et la réflexion qui, à l'occasion d'un deuil intime, propose un état des lieux de la société actuelle, marqué par la disparition de la classe ouvrière et le glissement des idéologies politiques. Fils d'ouvrier, devenu intellectuel proche de Michel Foucault et de Pierre Bourdieu, Didier Ribon a enseigné jusqu'en 2017 à l'Université d'Amiens en tant que spécialiste des questions liées à l'identité, à l'homosexualité et aux minorités culturelles. Il est désormais professeur à l'Université d'Hanover aux États-Unis. Dans Retour à Reims, il examine avec lucidité les mécanismes de domination et de suggestion qui sont, hélas, toujours à l'œuvre dans notre société. Ouvrons la première page de cet impossible retour. Revenons quelques mois avant la mort du père. Issu d'une région meurtrie par les guerres et la misère, l'auteur tente d'expliquer son propre déni de ses origines. Tout d'abord protégé par sa fonction de sociologue, il est bientôt rattrapé par ses affects et redevient avant tout un fils. Longtemps, ce ne fut pour moi qu'un nom. Mes parents s'étaient installés dans ce village à une époque où je n'allais plus les voir. De temps à autre, au cours de mes voyages à l'étranger, je leur envoyais une carte postale, ultime effort pour maintenir un lien que je souhaitais le plus ténu possible. En écrivant l'adresse, je me demandais à quoi ressemblait l'endroit où ils habitaient. Je ne poussais jamais plus loin la curiosité. Lorsque je lui parlais au téléphone une fois ou deux par trimestre, souvent moins, ma mère me demandait « Quand viens-tu nous voir ?» J'éludais prétextant que j'étais occupé et lui promettais de venir bientôt. Mais je n'en avais pas l'intention. J'avais fui ma famille et n'éprouvais aucune envie de la retrouver. Je n'ai donc connu Muison que tout récemment. C'était conforme à l'idée que j'en avais conçue. un exemple caricatural de rurbanisation, un de ces espaces semi-urbains en plein milieu des champs, dont on ne sait plus très bien s'ils appartiennent encore à la campagne ou s'ils sont devenus au fil des ans ce qu'il convient d'appeler une banlieue. Au début des années 50, ai-je appris depuis lors, le nombre d'habitants ne dépassait pas la cinquantaine, regroupés autour d'une église dont certains éléments subsistent du XIIe siècle, malgré les guerres qui dévastèrent par vagues toujours recommencées le nord-est de la France, cette région au statut particulier selon les mots de Claude Simon, où les noms de villes et de villages semblent synonymes de batailles et de camps retranchés, de sourdes canonnades et de vastes cimetières. Aujourd'hui, ils sont plus de 2000 à y vivre, entre d'un côté la route de Champagne, qui commence à sinuer non loin de là dans un paysage de coteaux couverts de vignes, et de l'autre une zone industrielle plutôt sinistre dans les faubourgs de Reims, que l'on rejoint après 15 ou 20 minutes de voiture. Des rues ont été créées, le long desquelles s'alignent des maisons semblables les unes aux autres et accolées deux par deux. Ce sont pour la plupart des logements sociaux. Leurs locataires ne sont pas des gens riches, loin s'en faut. Pendant près de 20 ans, mes parents vécurent là sans que je me décide à faire le déplacement. Je ne vins dans cette bourgade, comment désigner un tel endroit, et dans leur maisonnette, qu'après que mon père l'eut quitté pour être installé par ma mère dans une clinique accueillant des personnes frappées par la maladie d'Alzheimer, d'où il n'allait plus sortir. Ma mère avait retardé ce moment le plus longtemps possible, mais épuisée et effrayée par ses soudains accès de violence, un jour il avait pris un couteau de cuisine et s'était précipité sur elle, elle avait fini par se rendre à l'évidence, il n'y avait pas d'autre solution. Dès qu'il fut absent, il me devint possible d'entreprendre ce voyage, ou plutôt ce processus de retour auquel je n'avais pu me résoudre auparavant. De retrouver cette contrée de moi-même, comme aurait dit Genet, d'où j'avais tant cherché à m'évader, un espace social que j'avais mis à distance, un espace mental contre lequel je m'étais construit, mais qui n'en constituait pas moins une part essentielle de mon être. Je vins voir ma mère. Ce fut le début d'une réconciliation avec moi-même, avec toute une part de moi-même que j'avais refusée, rejetée, reniée. Imaginons dans ce contexte modeste les retrouvailles pudiques de l'auteur avec sa mère. Au fil de ses visites, une nouvelle intimité se crée entre la mère et le fils. La parole se renoue devant une tasse de café ou face à des photographies de famille. Sur l'une d'elles, l'auteur découvre un inconnu. Je n'ai pas assisté aux obsèques de mon père. Je n'avais pas envie de revoir mes frères avec qui je n'avais plus aucun contact depuis plus de 30 ans. Comme il a changé, aurions-nous pensé les uns les autres, cherchant désespérément à déceler sous notre aide aujourd'hui ce que nous étions hier ou plutôt avant-hier quand nous étions des frères, c'est-à-dire quand nous étions jeunes. Le lendemain, je suis allé passer l'après-midi avec ma mère. Nous sommes restés plusieurs heures à bavarder, assis dans les fauteuils du salon. Elle a sorti d'une armoire des boîtes pleines de photos. Il y en avait plusieurs de moi, bien sûr, petits garçons, adolescents, de mes frères aussi. J'avais à nouveau sous les yeux, mais n'était-il pas encore gravé dans mon esprit et dans ma chair, ce milieu ouvrier dans lequel j'ai vécu, et cette misère ouvrière qui se lie dans la physionomie des habitations à l'arrière-plan, dans les intérieurs, les vêtements, les corps eux-mêmes. Il est toujours vertigineux de voir à quel point les corps photographiés du passé se présentent immédiatement au regard comme des corps sociaux, des corps de classe, et de constater à quel point également la photographie comme souvenir, en ramenant l'individu, moi en l'occurrence, à son passé familial, l'ancre dans son passé social. La sphère du privé et même de l'intime telle qu'elle ressurgit dans de vieux clichés nous réinscrit dans la case du monde social d'où nous venons, dans des lieux marqués par l'appartenance de classe, comme si la généalogie individuelle était inséparable d'une archéologie sociale que chacun porte en soi, comme l'une des vérités les plus profondes. « C'est qui ?» ai-je demandé à ma mère. « Mais c'est ton père ?» me répondit-elle. « Tu ne le reconnais pas ?» C'est parce que tu ne l'avais pas vu depuis longtemps. En effet, je n'avais pas reconnu mon père sur cette photo prise quelque temps avant sa mort. Amaigri, recroquevillé sur lui-même, le regard perdu, il avait affreusement vieilli. Et il me fallut quelques minutes pour faire coïncider l'image de ce corps affaibli avec l'homme que j'avais connu, vociférant à tout propos, stupide et violent, et qui m'avait inspiré tant de mépris. En cet instant, j'éprouvais un certain trouble, comprenant que dans les mois, les années peut-être, qui avaient précédé sa mort, il avait cessé d'être la personne que j'avais détestée pour devenir cet être pathétique. Un ancien tyran domestique déchu, inoffensif et sans force, vaincu par l'âge et la maladie. Quand j'essaie de réfléchir, je me dis que je ne sais pas grand-chose de mon père. Que pensait-il ? Oui, que pensait-il du monde dans lequel il vivait, de lui-même et des autres ? Comment percevait-il les choses de la vie, les choses de sa vie ? et notamment nos relations de plus en plus tendues, puis de plus en plus distantes, puis notre absence de relations. Je fus stupéfait il y a peu d'apprendre que, me voyant un jour dans une émission de télévision, il s'était mis à pleurer, submergé par l'émotion. Constater qu'un de ses fils avait atteint ce qui représentait à ses yeux une réussite sociale à peine imaginable l'avait bouleversé. Il était prêt, lui, que j'avais connu si homophobe, à braver le lendemain le regard des voisins et des habitants du village et même à défendre en cas de besoin ce qu'il considérait comme son honneur et celui de sa famille. Je présentais ce soir-là mon livre « Réflexions sur la question gay » et redoutant les commentaires et les sarcasmes que cela pouvait déclencher, il avait déclaré à ma mère « Si quelqu'un me fait une remarque, je lui fous mon poing sur la gueule. » Je n'eus jamais, jamais de conversation avec lui. Il en était incapable. Il est trop tard pour le déplorer. Mais il y a tant de questions que j'aimerais lui poser aujourd'hui, ne serait-ce que pour écrire le présent livre.
Ce qu'il me reste de mon père, rien si ce n'est cette envie de le fuir, mais aussi ce qui me reste de mon père, de ma famille, du milieu dans lequel j'ai grandi, c'est aussi cette conscience que les classes sociales existent et que elle s'imprime en nous et que beaucoup de mes réactions de timidité, de honte, d'incapacité à tout à fait entrer dans les rôles sociaux professionnels qui sont les miens aujourd'hui, je crois que ça me vient de ma famille et du fait que venant de là d'où je viens, je n'adhère pas tout à fait aux positions auxquelles j'ai accédé. Donc s'il me reste quelque chose de mon père, ça serait ça.
Je sais plus très bien l'enfant que j'étais, voleur, gendarme ou capitaine, enfant casseur, enfant blessé, y a plus que ma mère qui s'en souvienne. Sur les photos de la communale, sur quatre étages en randonnion, j'ai beau chercher, je reconnais mal le petit garçon qui porte mon nom. Je suis né en blue jean à 20 ans, je suis né sans racines, je suis né comme un grand. Je suis né sans un cri, sans un mot, les mains sur mon piano. Je suis né en blue jean à 20 ans, je suis né sans amis, je suis né sans argent. Je suis né comme on meurt à la guerre, loin de sa terre. Je sais plus très bien l'enfant où j'étais, il y a trop longtemps je l'ai perdu de vue. Jour après jour, je l'ai gaspillé, je l'ai donné. Je l'ai vendu, je l'ai tué à coups de silence, à coups d'amour, à coups d'insultes, à coups d'espoir, à coups d'absence. Je l'ai bradé contre un adulte. Je suis né en blue jean à 20 ans, je suis né sans racines, je suis né comme un grand. Je suis né sans un cri, sans un mot, les mains sur mon piano. Je suis né en blue jean à 20 ans, je suis né sans amis, je suis né sans argent. Je suis né comme on meurt à la guerre, loin de sa terre. Je sais plus très bien l'enfant que j'étais. Il y a des souvenirs qui font du tort. Il y a des souvenirs qui font rêver. Il y a des souvenirs qui donnent des remords. Je veux pas vieillir comme un errant, comme un maillon loin de sa chaîne. Je voudrais que l'enfance de mes enfants, ce soit aussi un peu la mienne. Je suis né en blue jean à 20 ans, je suis né sans racines, je suis né comme un grand. Je suis né sans un cri, sans un mot, les mains sur mon piano. Je suis né en blue jean à 20 ans, je suis né sans amis, je suis né sans argent. Je suis né comme on meurt à la guerre, loin de sa terre.
À la mort de son père, Didier Héribon prend conscience d'une double rupture. En s'opposant à un père ouvrier et homophobe, le sociologue comprend qu'il a vécu une double déchirure, sociale, en quittant son milieu d'origine, et identitaire, en affirmant son homosexualité. Alors que ses premiers livres portent sur la honte sexuelle, il s'étonne de n'avoir jamais écrit sur la honte sociale, si bien décrit par la romancière Annie Ernaux qu'il admire. Étudiant à Paris, coupé de son milieu, l'auteur souffre d'un sentiment de trahison existentielle envers les siens. Comme était grande pourtant la distance qui me séparait désormais de cet univers qui avait été le mien et dont j'avais, avec l'énergie du désespoir, voulu ne plus faire partie, je dois avouer que, tout en me sentant toujours proche et solidaire des luttes populaires, tout en restant fidèle à des valeurs politiques et émotionnelles qui font que je vibre quand je vois un documentaire sur les grandes grèves de 1936 ou de 1968, j'éprouvais au plus profond de moi-même un rejet du milieu ouvrier tel qu'il est réellement. La classe mobilisée ou perçue comme mobilisable et donc idéalisée, héroïsée même, diffère des individus qui la composent. Et je détestais de plus en plus me retrouver au contact immédiat de ce qu'étaient, de ce que sont les classes populaires. Dans les premiers temps de mon installation à Paris, quand je continuais de voir mes parents qui habitaient toujours à Reims, dans la cité HLM où j'avais vécu toute mon adolescence, ils n'allaient la quitter pour s'installer à Muison que bien des années après, ou quand je déjeunais avec eux le dimanche chez ma grand-mère qui habitait Paris et à qui ils venaient rendre visite de temps à autre, une gêne difficile à cerner et à décrire s'emparait de moi devant des façons de parler et des manières d'être si différentes de celles des milieux dans lesquels j'évoluais désormais, devant des préoccupations si éloignées des miennes, devant des propos où un racisme primaire et obsessionnel se donnait libre cours dans chaque conversation. Cela s'apparentait pour moi à une corvée, de plus en plus pénible à mesure que je me changeais en quelqu'un d'autre. J'ai reconnu très précisément ce que j'ai vécu à ce moment-là en lisant les livres qu'Annie Ernaux a consacrés à ses parents et à la distance de classe qui les séparait d'eux. Elle y évoque à merveille ce malaise que l'on ressent lorsqu'on revient chez ses parents après avoir quitté non seulement le domicile familial, mais aussi la famille et le monde auquel, malgré tout, on continue d'appartenir, et ce sentiment déroutant d'être à la fois chez soi et dans un univers étranger. Deux parcours, donc, imbriqués l'un dans l'autre. Deux trajectoires interdépendantes de réinvention de moi-même, l'une en regard de l'ordre sexuel, l'autre en regard de l'ordre social. Pourtant, quand il s'est agi d'écrire, c'est la première que je décidais d'analyser, celle qui a trait à l'oppression sexuelle, et non la seconde, celle qui a trait à la domination sociale, redoublant peut-être par l'écriture théorique ce qui avait été la trahison existentielle. Ce choix constitua non seulement une manière de me définir et de me subjectiver dans le temps présent, mais aussi un choix de mon passé, de l'enfant et de l'adolescent que j'avais été, un enfant gay, un adolescent gay, et non un fils d'ouvrier. Et pourtant... Découvrons au contraire ce qui faisait la fierté de la classe ouvrière, l'appartenance à la gauche. Dans le passage suivant, l'auteur assume l'héritage communiste de sa famille et s'interroge sur la valeur de l'engagement politique pour son milieu d'origine. Mon grand-père, mon père et ses frères, tout comme les hommes du côté de ma mère, tous allaient assister en groupe aux réunions publiques des dirigeants nationaux. Et tout le monde votait pour les candidats communistes à chaque élection, tempêtant contre la fausse gauche que représentaient les socialistes, leur compromission et leur trahison. L'expression « la gauche » était pourvue d'une forte signification. Il s'agissait de défendre ses intérêts et de faire entendre sa voix. Se constituer comme sujet politique, c'était s'en remettre aux porte-paroles, par l'intermédiaire desquels les ouvriers, la classe ouvrière, existaient en tant que groupe constitué, en tant que classe consciente d'elle-même. Et ce que l'on pensait soi-même, les valeurs dont on se réclamait, les attitudes que l'on adoptait, tout cela était très largement façonné par la conception du monde que le parti contribuait à installer dans les consciences et à diffuser dans le corps social. Le vote était donc un moment très important de l'affirmation collective de soi et de son poids politique. Être communiste n'avait à peu près aucun rapport avec le désir de voir s'instaurer un régime qui aurait ressemblé à celui de l'URSS. La politique étrangère semblait d'ailleurs bien lointaine, et encore plus chez les femmes que chez les hommes. Il allait de soi qu'on était du côté soviétique contre l'impérialisme américain, mais cela n'intervenait jamais dans les discussions. En 1968, alors que la radio relatait les événements tragiques qui se déroulaient à Prague, après l'intervention soviétique, je demandais à mes parents « qu'est-ce qui se passe ?» Et je me fis vertement rabrouer par ma mère. « T'occupe pas de ça, je ne sais pas pourquoi ça t'intéresse. » Sans doute parce qu'elle n'avait aucune réponse à me donner, et qu'elle était aussi perplexe que moi qui avais à peine 15 ans. En fait, l'adhésion aux valeurs communistes s'ancrait dans ses préoccupations plus immédiates et plus concrètes. Quand Gilles Deleuze, dans son abécédaire, avance l'idée qu'être de gauche, c'est percevoir le monde d'abord, considérer que les problèmes urgents, ce sont ceux du tiers-monde, plus proches de nous que ceux de notre quartier, la définition qu'il propose se situe à l'exact opposé de celle qu'incarnaient mes parents. Dans les milieux populaires, dans la classe ouvrière, la politique de gauche consistait avant tout en un refus très pragmatique de ce qu'on subissait dans sa vie quotidienne. Il s'agissait d'une protestation et non d'un projet politique inspiré par une perspective globale. On regardait autour de soi et non au loin. Et même si l'on répétait souvent « ce qu'il faudrait, c'est une bonne révolution », Ces expressions toutes faites étaient plutôt liées à la dureté des conditions de vie et au caractère intolérable des injustices qu'à la perspective d'instaurer un système politique différent. L'invocation de la révolution apparaissait comme le seul recours, un mythe contre un autre, opposable aux forces maléfiques, la droite, les richards, les gros bonnets, qui provoquaient tous les malheurs dans la vie des gens qui n'ont rien, des gens comme nous. Dans ma famille, on partageait le monde en deux camps, ceux qui sont pour l'ouvrier et ceux qui ne font rien pour l'ouvrier. Combien de fois ai-je entendu ces phrases dans lesquelles se résumait la perception de la politique ? D'un côté, il y avait nous et ceux qui sont avec nous, de l'autre, il y avait eux. Qui remplit désormais le rôle que jouait le parti ? Vers qui les exploités et les démunis peuvent-ils se retourner pour se sentir exprimés, soutenus ? À qui peuvent-ils se référer, s'adosser, pour se donner une existence politique et une identité culturelle ? Pour se sentir fiers d'eux-mêmes, parce que légitimes, et légitimes parce que légitimés par une instance puissante ? Ou tout bêtement, qui tient compte de ce qu'ils sont, de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils veulent ? Revenons au personnage du père. Aîné de 12 enfants, il fut soutien de famille à 11 ans pendant la Seconde Guerre mondiale. Découvrons dans le passage suivant l'implacable loi de l'exclusion scolaire qui a décidé de son destin. Lorsqu'il se maria à 21 ans en 1950, mon père était ouvrier au plus bas de l'échelle ouvrière depuis longtemps déjà. Il n'avait pas encore 14 ans quand il était entré dans ce qui allait constituer le décor de sa vie et le seul horizon qui puisse s'offrir à lui. L'usine l'attendait. Elle était faite pour lui. Lui était là pour elle. Comme elle attendait et attend toujours ceux qui naissaient et naissent dans des familles socialement identiques à la sienne, le déterminisme social exerça son emprise sur lui dès sa naissance. Les études de mon père n'allèrent donc pas au-delà de l'école primaire. Nul n'y aurait songé d'ailleurs, ni ses parents ni lui-même. Dans son milieu, on allait à l'école jusqu'à 14 ans, puisque c'était obligatoire, et on quittait l'école à 14 ans, puisque ça ne l'était plus. C'était ainsi. Sortir du système scolaire n'apparaissait pas comme un scandale, au contraire. Je me souviens que l'on s'indigna beaucoup dans ma famille quand la scolarité fut rendue obligatoire jusqu'à 16 ans. À quoi ça sert d'obliger des enfants à continuer l'école si ça ne leur plaît pas, alors qu'ils préféreraient travailler ? Répétait-on sans jamais s'interroger sur la distribution de ce goût ou de cette absence de goût pour les études. L'élimination scolaire passe souvent par l'auto-élimination et par la revendication de celle-ci comme s'il s'agissait d'un choix. La scolarité longue, c'est pour les autres, ceux qui ont les moyens. C'est comme s'il y avait une étanchéité presque totale entre les mondes sociaux. Les frontières qui séparent ces mondes définissent à l'intérieur de chacun d'eux des perceptions radicalement différentes de ce à quoi on peut aspirer ou non. On sait qu'ailleurs il en va autrement. Mais cela se passe dans un univers inaccessible et lointain. C'est l'ordre des choses, voilà tout. Il faut être passé, comme ce fut mon cas, d'un côté à l'autre de la ligne de démarcation, pour échapper à l'implacable logique de ce qui va de soi et apercevoir la terrible injustice de cette distribution inégalitaire des chances et des possibles. Cela n'a guère changé d'ailleurs. L'âge de l'exclusion scolaire s'est déplacé, mais la barrière sociale entre les classes reste la même. C'est pourquoi toute sociologie ou toute philosophie qui entend placer au centre de sa démarche le point de vue des acteurs et le sens qu'ils donnent à leurs actions n'est rien d'autre qu'une mystification et qu'une contribution à la perturbation du monde tel qu'il est, une idéologie de la justification de l'ordre établi. Il s'agit de rompre avec ces catégories qui sont vecteurs d'inertie sociale afin de produire un nouveau regard sur le monde. Car ils sont tracés tôt, les destins sociaux. Tout est joué d'avance. Et les places que nous allons occuper sont définies et délimitées par ce qui nous aura précédé, le passé de la famille et du milieu dans lequel on vient au monde. Mon père n'eut même pas la possibilité de se présenter au certificat d'études primaires qui constituait pour les enfants de classe populaire l'aboutissement et le couronnement de la scolarité. Ceux de la bourgeoisie suivaient un autre parcours. À 11 ans, ils entraient au lycée. Tandis que les enfants d'ouvriers et de paysans restaient cantonnés dans l'enseignement primaire jusqu'à 14 ans et s'arrêtaient là. Il s'agissait d'éviter tout mélange entre ceux à qui l'on devait dispenser les rudiments d'un savoir utilitaire, lire, écrire, compter, suffisant pour occuper des métiers manuels, et ceux, issus des classes privilégiées, à qui était réservé le droit à une culture dite « désintéressée », la culture tout court. Ce n'est que bien plus tard que mon père réussit à s'élever de quelques échelons, sinon dans la hiérarchie sociale, du moins dans celle de l'usine, passant par étapes du statut de manœuvre à celui d'ouvrier qualifié et enfin à celui d'agent de maîtrise. Il n'était plus ouvrier, il dirigeait des ouvriers. Ou plus exactement, il animait une équipe. Il tirait de ce nouveau statut un orgueil naïf. Bien sûr, je trouvais cela risible. Moi qui, tant d'années après, rougirais encore de honte quand il me faudrait fournir un acte de naissance sur lequel figurait la profession initiale de mon père, manœuvre, et celle de ma mère, femme de ménage. Moi qui ne pouvais concevoir qu'ils aient tant désiré s'élever au-dessus de leurs conditions, si peu que ce soit à mes yeux, quand c'était déjà beaucoup à leurs propres yeux. Mon père travailla donc en usine de 14 à 56 ans, quand il fut mis en pré-retraite, sans qu'on lui demande son avis, la même année que ma mère, qui l'avait rejoint à l'usine, tous deux rejetés par le système qui les avait exploités sans vergogne. Lui était désemparé de se retrouver désœuvré, elle assez heureuse de quitter un lieu de travail où les tâches étaient harassantes, à un point que ne peuvent imaginer ceux qui n'en firent jamais l'expérience, et où le bruit, la chaleur, la répétition quotidienne des gestes mécaniques rongent à petit feu les organismes les plus résistants. Ils étaient fatigués. Usé. Remontons encore dans l'histoire familiale et abordons la génération précédente. L'auteur a gardé une tendresse particulière pour sa grand-mère maternelle qui fut concierge à Paris. Mais cette grand-mère a eu une vie tumultueuse. Séduisante et séductrice, elle a abandonné son mari et ses enfants pendant la guerre. Elle a rejeté sa fille aînée, la mère du sociologue, née d'un premier mariage. Et voici qu'à la mort du père de Didier Ribon, un lourd secret ressurgit qui vient creuser plus profondément encore sa honte existentielle, ce sentiment tenace qu'il porte en lui. J'ai repensé à cette femme de ménage qu'était ma grand-mère. Elle portait en elle, malgré sa gentillesse, une dureté qui se lisait dans son regard, se trahissait parfois dans les intonations de sa voix. Sans doute n'avait-elle jamais oublié cette journée d'épouvante, les cris, les coups peut-être, et les semaines qui suivirent, le temps que ses cheveux repoussent. Que les voisins finissent par ne plus y penser. Elle avait été bonne à tout faire toute sa vie, exposée au harcèlement des patrons, mais elle aimait faire la noce. Ce qui, si je traduis correctement cette expression employée par ma mère à son sujet, signifie qu'elle voulait être une femme libre, qu'elle aimait sortir le soir et qu'elle passait d'un homme à l'autre sans avoir l'intention de s'attacher. Ses enfants étaient sans doute pour elle un embarras et la maternité un destin subi plutôt qu'un choix de vie. À l'époque, la contraception n'avait pas cours et l'avortement pouvait conduire en prison. Ce qui lui arriva d'ailleurs après la guerre. Elle fut condamnée à une peine de prison pour avoir avorté. Les hommes pouvaient assurément vivre leur sexualité comme bon leur semblait. Les femmes, non. Que se passa-t-il après l'armistice en 1940, lorsque la région fut occupée par l'armée allemande? Non seulement ma grand-mère, âgée de 27 ans, elle a volontairement travaillé en Allemagne, mais on l'accusa également par la suite d'avoir eu, est-ce vrai, est-ce faux, une liaison avec un officier allemand. J'essaie de l'imaginer. Son désir de survivre, d'avoir de quoi manger, de ne pas connaître la misère ou les difficultés d'approvisionnement. Qui était ce soldat ennemi? Fut-elle amoureuse de lui? Ou bien chercha-t-elle simplement à s'assurer une vie meilleure que celle qu'elle avait vécue jusque-là? Et comment décida-t-elle d'abandonner ses enfants en même temps que son compagnon? Je n'aurai jamais de réponse à ces questions. Pas plus que je ne saurais ce qu'elle éprouva quand elle dut subir les conséquences de ses choix et qu'elle devint pareille à cette victime à la robe déchirée que plaint Éluard dans un célèbre poème de tristesse et de remords, cette malheureuse qui resta sur le pavé, découronnée, défigurée. À la libération, ma grand-mère connut donc le sort réservé à celles qui n'avaient pas mesuré la portée de leurs actes. Cela se passa-t-il au cours d'un de ces châtiments collectifs dont quelques images entrecoupent parfois les documentaires sur la fin de la guerre, où l'on voit des groupes de femmes obligées de défiler sous les quolibets, les insultes et les crachats de la foule? Je ne sais pas. Ma mère ne m'en a pas dit plus. Elle m'a dit qu'elle n'en savait pas plus. Seulement les faits bruts et brutaux. Son frère lui a raconté que leur mère avait été tondue. Après le temps de la défaite et de l'occupation, la nation se régénérait dans sa force virile en punissant les femmes de leurs écarts sexuels, réels ou supposés, et en réaffirmant le pouvoir des hommes sur elles. Bien sûr, j'aurais préféré apprendre qu'elle avait été résistante, qu'elle avait caché des juifs au péril de sa vie, ou simplement qu'elle avait saboté des pièces dans l'usine où elle travaillait, ou je ne sais quoi d'autre dont on puisse s'enorgueillir. On rêve toujours d'avoir eu une famille glorieuse, quel qu'ait été le titre de gloire. Mais on ne change pas le passé. On peut tout au plus se demander comment gérer son rapport à une histoire dont on a honte? Comment se débrouiller avec ses horreurs d'autrefois, quand on s'inscrit malgré soi, mais malgré tout, dans cette généalogie? Je pourrais me plaire à imaginer que cela n'a pas compté pour moi, puisque je ne le sais que depuis très peu de temps. Comment l'aurais-je regardé si je l'avais su? Aurais-je osé lui en parler? L'émotion m'étreint aujourd'hui quand je me pose ces questions. Revenons au présent et évoquons désormais la fratrie de l'auteur. Second d'une fratrie de quatre garçons, Didier Ribon est le seul à avoir échappé à la déscolarisation précoce. Ses trois frères n'ont pas eu la même chance. L'aîné est devenu boucher, tandis que du côté des cadets, l'un est devenu mécanicien, l'autre gendarme. Les deux plus jeunes frères sont des électeurs du Front National. Envahi par un sentiment de culpabilité, l'auteur laisse éclater sa rage. Dans le passage suivant, son propos se durcit et fait de l'école l'instrument d'une véritable guerre sociale. Conscient d'être un miraculé du système scolaire, le sociologue tentera à sa façon de rompre le cercle infernal. Devenu professeur à l'université d'Amiens, il aidera à son tour des étudiants à persévérer. L'un d'eux se révélera un jeune écrivain à succès. Il s'agit d'Édouard Louis, l'auteur du best-seller « En finir avec Eddie Bellegueule » qui décrit un itinéraire similaire. Découvrons sous la plume de Didier Ribon ce champ de bataille qu'est l'école. Et si j'avais suivi le même chemin que mes frères, serais-je comme eux ? Je veux dire, aurais-je voté pour le Front National ? M'insurgerais-je, moi aussi, contre les étrangers qui envahissent notre pays et s'y croient chez eux ? Aurais-je partagé avec eux les mêmes réactions et les mêmes discours de défense contre ce qu'ils considèrent comme une agression permanente perpétrée contre eux par la société, l'État, les élites, les puissants, les autres ? À quel « nous » appartiendrais-je ? À quel « eux » m'opposerais-je ? Bref, quelle serait ma politique ? Ma manière de résister à l'ordre du monde ou bien d'y adhérer ? L'écrivain américain John Edgar Wyndman n'hésite pas à parler d'une guerre menée contre les Noirs. Est-il possible de poursuivre la transposition et de parler d'une guerre implacable menée par la société, par la bourgeoisie, par les classes dominantes, par un ennemi invisible ou trop visible contre les classes populaires en général ? Il ne serait pas exagéré de décrire les cités autour des villes françaises aujourd'hui comme le théâtre d'une guerre civile larvée. La situation de ces ghettos urbains montre comment on traite certaines catégories de la population, comment on les repousse aux marges de la vie sociale et politique, comment on les réduit à la pauvreté, à la précarité, à l'absence d'avenir. Et les grandes révoltes qui embrasent ces quartiers ne sont que la condensation soudaine d'une multitude de batailles fragmentaires dont le grondement ne s'éteint jamais. Je serais également tenté d'ajouter que des réalités statistiques comme l'élimination systématique des classes populaires du système scolaire et les situations de ségrégation et d'infériorité sociale auxquelles ces dernières sont vouées par la puissance de tels mécanismes ne peuvent s'interpréter autrement. Je sais que l'on va m'accuser de tomber dans une théorie du complot social en dotant les institutions de fonctions souterraines et même d'intentions maléfiques. On pourrait cependant souligner que certaines des formulations de Bourdieu s'en approchent étonnamment. Par exemple, quand il écrit « Quelle est la fonction réelle d'un système d'enseignement qui fonctionne de manière à éliminer de l'école, tout au long du cursus scolaire, les enfants des classes populaires et, à moindre degré, des classes moyennes ?» La fonction réelle, évidente, indéniable. Et comme Wyndman, je ne puis m'empêcher de voir dans le système scolaire tel qu'il fonctionne sous nos yeux une véritable machine infernale, sinon programmée pour atteindre ce but, du moins aboutissant à ce résultat objectif, rejeter les enfants des classes populaires, perpétuer et légitimer la domination de classe, l'accès différentiel aux métiers et aux positions sociales. Une guerre se mène contre les dominés, et l'école en est donc l'un des champs de bataille. Les enseignants font de leur mieux, mais ils ne peuvent rien, ou si peu, contre les forces irrésistibles de l'ordre social qui s'imposent envers et contre tout. Nous approchons du cœur même de la thèse de Didier Ribon. Retour à Reims développe aussi une pensée critique sur la démocratie et s'interroge sur la représentativité du vote. Voici des pages d'une grande lucidité où l'auteur examine les raisons qui peuvent expliquer l'inconcevable. Comment sa famille communiste en est-elle venue à voter Front National ? Comment expliquer ce grand écart idéologique qui fait passer la classe ouvrière de l'extrême gauche à l'extrême droite ? Selon le sociologue, la déchéance de la gauche commence dans les années 80 avec un glissement sémantique du discours politique qui apparaît d'abord anodin. Sans nommer François Mitterrand directement, il dénonce la trahison opérée par le premier gouvernement socialiste qui reprend à son compte le langage des dominés et remplace l'appartenance de classe par un éloge de l'individu. La gauche socialiste se lançait sur la voie d'une mutation profonde qui allait s'accentuer d'année en année et commençait de se placer avec un enthousiasme suspect sous l'emprise d'intellectuels néoconservateurs qui, sous couvert de renouveler la pensée de gauche, travaillaient à effacer tout ce qui faisait que la gauche était la gauche. se produisait en réalité une métamorphose générale et profonde des manières d'être autant que des références intellectuelles. On ne parla plus d'exploitation et de résistance, mais de modernisation nécessaire et de refondation sociale. Plus de rapports de classe, mais de vivre ensemble. Plus de destins sociaux, mais de responsabilités individuelles. La notion de domination et l'idée d'une opposition structurelle entre les dominants et les dominés disparurent du paysage politique de la gauche officielle au profit de l'idée neutralisante de contrat social, de pacte social, dans le cadre desquels des individus définis comme égaux en droit, égaux, quelle obscène plaisanterie, étaient appelés à oublier leurs intérêts particuliers, c'est-à-dire à se taire et à laisser les gouvernants gouverner comme ils l'entendaient. Quels furent les objectifs idéologiques de cette philosophie politique? Ses promoteurs s'évertuant d'ailleurs à effacer la frontière entre la droite et la gauche. L'enjeu était à peine dissimulé. L'exaltation du sujet autonome contre l'idée qu'il existait des groupes sociaux. Ces vieux discours, qui étaient jusqu'alors ceux de la droite, mettant en avant la responsabilité individuelle contre le collectivisme, devinrent aussi ceux de la gauche. Au fond, on pourrait résumer la situation en disant que les partis de gauche et leurs intellectuels d'État parlèrent désormais un langage de gouvernants et non plus le langage des gouvernés. Tout au plus daigna-t-on, dans ces discours néoconservateurs, remplacer les opprimés et les dominés d'hier et leurs combats par les exclus d'aujourd'hui, destinataires passifs et silencieux de mesures technocratiques destinées à aider les pauvres et les victimes de la précarisation. Ce qui n'était qu'une autre stratégie intellectuelle, hypocrite et retorse, pour faire disparaître toute idée d'oppression et de lutte des classes. Des pans entiers des couches les plus défavorisées allaient donc, comme par un effet quasi automatique de redistribution des cartes politiques, se tourner vers le parti qui semblait être le seul à se préoccuper d'elles, et en tout cas offrait un discours s'efforçant de redonner un sens à leur expérience vécue. Et cela, bien que les instances dirigeantes de ce parti n'aient pas été composées, loin s'en faut, de membres issus des classes populaires, contrairement à ce qui avait été le cas du Parti communiste. Ma mère a fini par admettre, après m'avoir toujours affirmé le contraire, qu'il lui était arrivé de voter pour le Front National. Une seule fois, précisa-t-elle, mais je ne suis pas certain qu'il faille la croire sur ce point. À la différence du vote communiste, qui était un vote assumé, revendiqué, proclamé, le vote d'extrême droite aura été une démarche dissimulée, voire niée, mais malgré tout, assez mûrement réfléchi et fermement décidé. Dans le premier cas, on affirmait fièrement son identité de classe par ce geste de soutien au Parti des ouvriers. Dans le second, on défendait en silence ce qu'il restait de cette identité désormais ignorée quand elle n'était pas méprisée par les hiérarches de la gauche institutionnelle. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, je suis persuadé que le vote pour le Front National doit s'interpréter, au moins en partie, comme le dernier recours des milieux populaires pour défendre leur identité collective, et en tout cas une dignité qu'ils sentaient comme toujours piétinée, et désormais par ceux qui les avaient autrefois représentés et défendus. À qui la faute par conséquent si le recours eut un tel visage? Si la signification d'un « nous » ainsi maintenu ou reconstitué, se transforma au point de désigner les Français opposés aux étrangers plutôt que les ouvriers opposés aux bourgeois. On pourrait avancer que le vote communiste représentait une affirmation positive de soi et le vote pour le Front National une affirmation négative de soi. En effaçant du discours politique de la gauche toute idée de groupes sociaux en conflit les uns avec les autres, on a cru réussir à priver ceux qui votaient ensemble de la possibilité même de se penser comme un groupe cimenté par des intérêts communs. On les a ramenés à l'individuation de leur opinion et on a dissocié cette opinion de la force qu'elle avait pu contenir autrefois en l'avouant dès lors à l'impuissance. Mais cette impuissance devint rage.
Eh bien, nous sommes donc dimanche 10 mai 1981, le deuxième tour de l'élection présidentielle. Nous vivons ensemble un moment décisif. Dans quelques secondes, vous allez connaître le nom du président de la République. 5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République.
Au départ, un homme, une rose à la main. Elle cabache au placard, la Bastille, la pluie qui vient. Au départ, la guillotine au panier. Il aurait dit quelle histoire, cinquième semaine de congé. au départ, tu sais c'est comme pour nous deux. J'y croyais sans trop y croire, au départ c'est toujours mieux. Et puis la rigueur, et puis les mots qui blessent, les tensions. Moi c'est moi et lui c'est lui, et la cohabitation. Au départ, c'est toujours le mois de mai. Écharpe rouge et chapeau noir, la lettre à tous les Français. Au départ, désaccord à Matignon. RMI, Michel Rocard, les affiches Génération. Au départ, tu sais c'est comme pour nous deux. J'y croyais sans trop y croire, au départ c'est toujours mieux. Et puis au bord du canal, un premier mai sans raison. Nos amours se tirent une balle et la cohabitation. Au départ, odeur de gaz et de poudre. Les matraques à Saint-Bernard, j'ai décidé de dissoudre. Au départ, c'est tout beau, c'est tout pluriel. 35 heures et ça repart, c'est les mariages arc-en-ciel. Au départ, tu sais c'est comme pour nous deux. J'y croyais sans trop y croire, au départ c'est toujours mieux. Et puis 21 avril, coup de tonnerre, de canon. Nos amours qui se défilent, fin de cohabitation. Au départ, tu sais c'est comme pour nous deux. J'y croyais sans trop y croire, au départ c'est toujours mieux. Et puis 21 avril, coup de tonnerre, de canon. Nos amours qui se défilent, fin de cohabitation. Au départ, un homme, une rose à la main. Au départ, la Bastille, la pluie qui vient. Au départ, c'est toujours le mois de mai. Au départ, la lettre à tous les Français.
Ça peut pas faire de mal. Lecture proposée par Guillaume Gallienne.
Retrouvons la dimension autobiographique du livre. Alternant pensée théorique et confession personnelle, l'auteur revient sur son propre parcours de transfuge de classe et tente de comprendre comment il a pu s'en sortir. Il évoque ici une rencontre décisive et rend hommage à la personnalité qui lui a ouvert la voie de la culture. L'avenir les séparera, l'ami deviendra producteur de musique tandis que Didier Ribon prendra le chemin de la philosophie. Mais revenons à cette étape cruciale de l'adolescence et retrouvons le narrateur à l'âge où son père entrait à l'usine. Au lycée, à l'âge de 13 ou 14 ans, je me liais d'une étroite amitié avec un garçon de ma classe, fils d'un professeur de l'université, alors embryonnaire de la ville. Il ne serait pas excessif de dire que j'étais amoureux de lui. Je l'aimais comme on aime à cet âge-là. Mais puisque nous étions deux garçons, il était évidemment impossible pour moi de lui exprimer les sentiments que j'éprouvais à son égard. Il avait un beau prénom. Moi, un prénom banal. Cela symbolisait en quelque sorte l'écart social entre lui et moi. Il habitait avec sa famille dans une grande maison située dans un quartier aisé, proche du centre de la ville. Aller chez lui m'impressionnait et m'intimidait. Je ne voulais pas qu'il comprenne que j'habitais dans une cité nouvelle à la périphérie et je restais évasive quand il me posait des questions à ce sujet. Un jour, pourtant, curieux sans doute de savoir où et comment je vivais, il vint sonner à ma porte sans m'en avoir averti au préalable. J'en fus mortifié, malgré la gentillesse que traduisait ce geste, que j'aurais dû considérer comme une façon pour lui de me signaler que je n'avais aucune raison d'avoir honte. Il avait des frères et des sœurs plus âgés que lui et qui suivaient des études à Paris, et en raison de l'atmosphère familiale dans laquelle il baignait, sa conversation charriait des noms de cinéastes ou d'écrivains. Il me parlait des films de Godard, des romans de Beckett. À côté de lui, je me sentais très ignorant. Il m'apprenait tout cela, et surtout l'envie d'apprendre tout cela. Il me fascinait. Et j'aspirais à lui ressembler. Et je me mis à parler moi aussi de Godard, dont je n'avais rien vu, et de Beckett, dont je n'avais rien lu. Il était évidemment bon élève et ne manquait jamais une occasion d'afficher une distance dilettante avec le monde scolaire. Et j'essayais de jouer le même jeu alors que je ne disposais pas des mêmes atouts. J'appris à tricher, je m'attribuais des connaissances que je n'avais pas. Qu'importait la vérité? Seules comptaient les apparences et l'image que je m'évertuais à fabriquer et à donner de moi-même. J'allais jusqu'à imiter sa manière d'écrire, je veux dire sa graphie. Et aujourd'hui encore, les lettres que je forme sont l'un des vestiges de cette relation d'autrefois. Une relation qui d'ailleurs ne dura que fort peu de temps. Je le perdis bientôt de vue. Nous étions à la fin des années 1960, et cette époque imprima en nos deux jeunes esprits une empreinte profonde, mais radicalement différente. Il quitta le lycée bien avant de passer le bac et partit faire la route. Il admirait Kerouac, aimait jouer de la guitare, se reconnaissait dans la culture hippie. Moi, je fus plutôt marqué par mai 68 et la révolte politique. En 1969, je devins, j'avais à peine 16 ans, un militant trotskiste, ce qui occupa la majeure partie de mon existence au cours des années suivantes. Je le restais jusqu'à l'âge de 20 ans environ, et cela m'amena à lire avec dévotion Marx, Lénine et Trotsky, ce qui représenta pour moi une expérience intellectuelle décisive, puisque c'est ce qui m'orienta vers la philosophie. Si la rupture est consommée entre le père et son fils, Didier Ribon maintient pourtant une forme de lien avec son milieu en s'engageant dès l'adolescence dans le mouvement trotskiste qui défend la classe ouvrière. Étudiant en philosophie, il se voit bientôt contraint de gagner sa vie et devient chroniqueur pour le journal Libération. C'est en tant que journaliste qu'il rencontre le penseur Michel Foucault et devient son biographe. Si la philosophie permet à Didier Ribon d'opérer sa métamorphose en intellectuel, une autre facette de sa personnalité reste douloureuse, son homosexualité. Quand je me remémore ces années de mon adolescence, Reims m'apparaît non seulement comme le lieu d'un ancrage familial et social qu'il me fallait quitter pour exister autrement, mais également, et ce fut tout autant déterminant dans ce qui guida mes choix, comme la ville de l'insulte. Combien de fois m'y suis-je fait traiter de pédé ou d'autres mots équivalents ? Je ne saurais le dire. Du jour où je la rencontrais, l'insulte ne cessa plus de m'accompagner. Oh, certes, je la connaissais depuis toujours. Qui ne la connaît pas ? On l'apprend en apprenant le langage. Avant même de savoir ce qu'elle signifiait, je l'entendais aussi bien chez moi qu'à l'extérieur du foyer familial. J'ai raconté plus haut que mon père exprimait sa colère à l'égard des personnalités politiques lorsqu'il regardait la télévision. Il en allait de même quand il voyait apparaître à l'écran ceux qu'il exécrait en raison de leur sexualité réelle ou supposée. Jean Marais figurait au générique d'un film. Mon père répétait alors toutes les 5 minutes « C'est une pédale, c'est une tapette, c'est une tentouse !» Et ce d'autant plus que ma mère ne manquait jamais l'occasion de dire qu'elle le trouvait beau. Découvrir peu à peu ce qu'étaient mes désirs et ce qui serait ma sexualité signifia donc pour moi entrer dans cette catégorie préalablement définie et stigmatisée par ces mots d'insulte et éprouver l'effet de terreur qu'ils exercent sur ceux qui les reçoivent et les ressentent comme ce à quoi ils risquent d'être exposés toute leur vie. L'insulte est une citation venue du passé. Elle n'a de sens que parce qu'elle a été répétée par tant d'autres locuteurs auparavant. Un mot vertigineux venu du fond des âges, comme le dit un vers de Genet. Mais elle représente aussi, pour ceux qu'elle vise, une projection dans l'avenir. Le pressentiment affreux que ces mots et la violence dont ils sont porteurs les accompagneront tout au long de leur vie. Devenir gay, c'est devenir la cible. Ainsi, avant même que je ne découvre que c'était de moi qu'elle parlait, l'insulte m'était familière. Il me fallut apprendre à vivre avec. Comment faire autrement ? Mais je ne parvins jamais à m'y habituer vraiment. Chaque fois, l'acte toujours réitéré de la désignation injurieuse qui m'était adressée venait me transpercer comme un coup de couteau, me terroriser aussi, car il signifiait qu'on savait ou subodorait ce que j'étais, alors que j'essayais de le cacher, ou qu'on m'assignait à un destin, celui d'être à jamais soumis à cette omniprésente dénonciation et à la malédiction qu'elle prononçait. En fait, c'est tout le milieu autour de moi qui me criait « pédé », quand ce n'était pas tapette, tentouse, tata et autres vocables hideux dont la simple évocation aujourd'hui ravive en moi le souvenir jamais disparu de la peur qu'il m'inspirait, de la blessure qu'il m'infligeait, du sentiment de honte qu'il gravait en mon esprit. Je suis le produit de l'injure, un fils de la honte.
Ça peut pas faire de mal.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pistugia avec Gilles Gaillard à la technique. Elle a été préparée par Estelle Gapp, Fanny Leroy et Claire Tesser. Je rappelle que Retour à Reims se joue actuellement jusqu'au 16 février à l'Espace Cardin dans une mise en scène de Thomas Ostermayer. Le texte de Didier Ribon est actuellement réédité dans la collection Poche, Chants, Essais aux éditions Flammarion. Bonne soirée et à la semaine prochaine.